Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner envie de le lire à votre tour, ou éventuellement de découvrir d'autres écrits de l'auteur choisi. Et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Magali ou Catherine. Et bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et aujourd'hui, Catherine, je crois que c'est toi qui as choisi le livre qui va être présenté.
Oui. C'est moi qui ai choisi, mais on était d'accord toutes les deux.
Ah oui.
Bon. Alors, j'ai choisi un roman qui est sorti à la rentrée de septembre 25. J'adore cette expression.
C'est-à-dire ?
Bah, sorti à la rentrée.
Ah oui, sorti à la rentrée.
C'est rigolo, non ?
Oui. Bon. C'est une expression qu'on emploie toujours et on pense pas un peu...
Sorti à la rentrée. Ouais. Bon, c'est pas grave.
Oui, ben voilà, le ton est donné.
Alors, donc, j'ai choisi, et nous avons choisi, oui. En fait, « L'homme qui lisait des livres ». Déjà, rien que le titre, c'est un aimant à lecteur, je trouve. Alors, c'est le dernier roman de Rachid Benzine, qui est paru donc à la rentrée 25 chez Julliard, et dont nous avons réellement apprécié la lecture toutes les deux. C'est un court roman qui évoque la Palestine, l'histoire de la Palestine, et la puissance des mots pour survivre au chaos.
Un petit mot sur l'auteur, peut-être ?
Alors oui, tout à fait. Donc Rachid Benzine, il est franco-marocain. Il est né à Kenitra, au Maroc, en 1971. Il est arrivé en France avec ses parents. À l'âge de 7 ans, il vivait notamment à Trappes. Alors c'est un écrivain, évidemment, mais c'est aussi un intellectuel. Il est enseignant et il a la particularité d'être islamologue. Et il est vraiment reconnu pour effectivement son travail intellectuel qui est à la croisée de la religion, de la philosophie, de la littérature. Il a lui-même étudié la philosophie et les sciences politiques, qu'il enseigne d'ailleurs notamment à Aix-en-Provence. Alors il a publié beaucoup de choses, notamment des essais. En 2004, Les nouveaux penseurs de l'islam. Et en 2013, Le Coran expliqué aux jeunes. Il travaille aussi en collaboration avec d'autres auteurs, notamment Christian Delorme, avec lequel il a écrit La République, l'Église et l'Islam 2. Une révolution française, écrit en 2016. Également en 2016, Nour, Pourquoi n'ai-je rien vu venir ? Et une autre collaboration avec Delphine Horviller, avec laquelle il a écrit Des mille et une façons d'être juif ou musulmans, paru au Seuil en 2017. Alors, il travaille sur une approche historico-critique du Coran, et milite pour un dialogue interreligieux et humaniste. Il s'est fait connaître, comme on l'a vu, à travers des essais, mais toujours autour du dialogue islamo-chrétien. Il a publié plusieurs romans et plusieurs pièces. Parmi ses œuvres peut-être un peu plus connues, figure en 2020 « Ainsi parlait ma mère », en 2022, « Voyage au bout de l'enfance » et en 2023, « Les silences des pères » qui a été récompensé par le Grand Prix du roman Métis.
Eh bien, je crois que je n'ai jamais lu ce monsieur.
Eh bien, on a de la chance.
Voilà. Moi, j'ai lu les deux derniers que j'ai cités, là, effectivement, et c'est vraiment très bien. Ces ouvrages donc, explorent souvent les thèmes de l'identité, de la transmission, de la résilience personnelle et collective.
Et du coup, son dernier roman est dans la même lignée ?
Oui, c'est « L'homme qui lisait des livres », c'est une fable contemporaine, profondément humaine, qui met en scène la rencontre entre un photographe occidental, enfin un Français, parti en reportage, et un vieil homme de Gaza pour qui la littérature devient acte de survie, de résistance et d'humanité. Alors, je vous propose qu'on commence par un premier extrait, c'est le début du roman, pour se mettre dans le bain tout de suite. La rencontre. Journée ordinaire. Hier, deux frappes ont tué 4 gamins dont le seul crime avait été de jouer au foot sur la plage. Tu te réveilles dans la chambre où tu t'es installé la veille. L'hôtel concentre une partie de la presse internationale. Tu aurais préféré loger chez l'habitant, mais ton agence t'a convaincu de privilégier la sécurité. Peu de quartiers sont vraiment épargnés. Des familles entières disparaissent parce qu'elles habitent sans le savoir ou en toute conscience à proximité d'un bureau clandestin. Les frappes chirurgicales relèvent souvent de l'erreur médicale. Une énième trêve devrait t'offrir quelques jours pour capturer ces instants de vie quotidienne, les photos que tu affectionnes, loin du sensationnalisme. Ton employeur préfère quant à lui les enfants en pleurs au milieu des ruines, les soldats blessés près d'un char, les immeubles troués par les tirs de roquettes. La vie banale n'est pas pour les journaux. Tu sors de l'hôtel, c'est le matin. Le soleil projette des ombres profondes au sol et sur les murs. Une belle clarté découpe les silhouettes des passants. Tu découvres pour la première fois cette ville dont les images ne semblent parvenir que depuis le ciel. Sur le trottoir, les étals profitent de l'accalmie pour appâter le client. Les couleurs éclatent sous la lumière. Le rouge des tomates, le vert des herbes fraîches, le jaune des citrons. Les tréteaux débordent de toute cette vie. Et les gens se pressent autour, les mains pleines, les yeux vifs. Les enfants piaillent, les femmes s'affairent, tout est mouvement. Le marchand s'agite, il pèse, discute, emballe. Mais quelque chose trahit une lassitude. L'effort de chaque geste, peut-être. L'homme sait qu'ici, la paix est toujours provisoire. Alors il vend vite, il vend tout, comme si demain pouvait disparaître à jamais. La poussière omniprésente recouvre tout. Une sensation de terre, la gorge sèche. Tu empruntes les ruelles en contrebas, le quartier n'a pas été touché. Tu descends les dernières marches en pierre, déformées par les pas de générations de Palestiniens. Ils y ont déposé des mots offerts au vent, y ont connu leurs premiers émois amoureux, y ont refait le monde comme s'il était porteur d'espérance, comme si on s'intéressait encore à eux. Les artères sont pleines de vie, mais d'une vie entre parenthèses, comme si tout pouvait s'écrouler à la moindre secousse. Les enseignes aux noms effacés par le soleil et les effondrements, les lettres disparues avec le temps. On repeint une porte ici, on nettoie une vitrine là, comme si chaque petit geste de réparation ou d'entretien pouvait conjurer le mauvais sort. Gaza est une ville en réécriture permanente. Chacun y va de son inspiration, de ses points de suspension. Tous redoutent l'instant de ce geste qui ne leur appartiendrait plus, le point final. Au détour d'une nouvelle rue, c'est l'odeur de sel et de la brise ramenée par le vent. Soudain, tu te trouves dans l'un des quartiers martyrisés. Et c'est alors l'enfer craché à la surface, une décharge à ciel ouvert. Tout ce que la guerre vomit, détruit, ensevelit, réduit à néant. Des façades éclatées, éventrées comme des carcasses de bêtes crevées. Les entrailles de béton pendent, tordues, répandues sur les trottoirs. Les maisons ne sont plus que cages thoraciques fracassées, comme si elles avaient implosé en mille morceaux. Des balcons encastrés dans le bâtiment d'en face, tels des serpents morts, des bouts de câbles pendouillent misérablement, des canalisations se vident sur les façades. Yeux crevés des fenêtres, trous béants qui vous regardent sans rien voir. Tout semble hurler, hurler sans raison. Les trottoirs sont une mer de gravats, de bouts de béton pulvérisés, de poutres brisées, comme si un géant avait écrasé la ville sous ses pieds. Les voitures, ou ce qu'il en reste, sont brûlées, calcinées, enchevêtrées dans les ruines, telles des bateaux échoués. Des drapeaux déchiquetés témoignent d'une attente bafouée. Un peu de rouge, un peu de vert accrochés au hasard, lambeaux de chair pendants, des graffitis désespérés agonisent sur les murs effrités. Tout ça n'a plus de sens. C'est un cimetière où même les ombres semblent perdues. À chaque coin de rue, quelque chose attire le regard. Ici, une porte bleue restée intacte, là, un réverbère plié, plus loin, un vélo abandonné, posé contre un bout de mur qui n'existe plus. Tout est là, figé dans une logique de l'absurde, où chaque élément inventorié a perdu sa fonction, son utilité, sa raison d'être. Tu passes devant un bâtiment étripé dont les étages paraissent s'être dérobés les uns sous les autres. Les cloisons démolies, ce sont des intérieurs ouverts à tout vent, la découpe offerte aux passants d'une vie volée. Et pourtant, on continue de vivre. Un théâtre de misère et de folie, un bal grotesque où les vivants ne sont plus tout à fait vivants, mais pas encore tout à fait morts. Ils se traînent dans les ruines comme des fantômes, avec l'air de ceux qui ont tout vu, tout perdu et qui n'attendent plus rien, sinon la fin. Mais ça continue. Et il faut bien vivre en attendant. Si sidéré, autant qu'écœuré, tu remontes vers un quartier moins touché et à l'évidence plus commerçant. C'est dans ce désarroi entre l'étal d'un boulanger et celui d'un cordonnier que tu le découvres. La devanture entourée de centaines de livres, la porte ouverte sur des milliers d'autres, et plusieurs centaines encore posées à même le trottoir sur une bâche moribonde. Il est assis, adossé au mur de la façade, comme s'il faisait corps avec le lieu. Le nez plongé dans un ouvrage, il a l'air d'un vestige oublié dans un coin de la rue. Il a peut-être 60 ans, 70 ans tout au plus. Sa silhouette est mince, frêle, un homme dont le corps a été érodé par le temps, sculpté par les années. Ses épaules sont légèrement affaissées par cette résignation tranquille que l'on trouve chez ceux qui ont vu trop de choses et qui continuent malgré tout. Sa peau est légèrement brunie par le soleil, mais elle a perdu de son éclat. Il porte des lunettes de travers, une vieille paire rafistolée avec un bout de scotch, de guingois sur le nez. Derrière ses binocles, les yeux semblent toujours plissés, à cause de la lumière vive ou par habitude de scruter des lignes de texte à longueur de journée. L'homme tourne une page, la hume, la caresse, puis replonge dans sa lecture. Près de lui, un verre ébréché rempli de ce qui ressemble à du thé qu'il sirote à petites gorgées. Il boit lentement sans y prêter attention. Son palais est sans nul doute habitué à ce goût singulier qui fait partie du quotidien de cette cité. De temps à autre, il replace ses lunettes. Il ne te voit pas. Tu n'es pourtant qu'à une dizaine de mètres, l'épiant depuis plusieurs minutes agenouillé. Tu n'as pas encore déclenché ton appareil. Tu crains de briser un moment de grâce. Il y a tout dans cette scène. Tout ce que Gaza est devenu. Un vieux libraire accroché encore à ses bouquins qui lit à deux pas des ruines, comme si les mots pouvaient le sauver du bruit, de la souffrance, de la mort lente de la ville. Et tu te dis que c'est ça la vraie image. Pas besoin de chercher plus loin. Il est là, sous tes yeux. Quand tu te décides enfin à appuyer sur le déclencheur, ton ombre, projetée sur son livre, lui signale ta présence. Il lève lentement les yeux, il te sourit. Tu essaies par quelques gestes de lui faire comprendre que tu souhaites le photographier. C'est alors qu'il te répond dans un français tout en maîtrise, classique, un peu désuet. « Savez, ce n'est pas rien une photographie. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Il serait peut-être plus aimable que nous prenions le temps d'abord de nous rencontrer. » Il t'invite à s'asseoir à côté de lui lentement, il pose son livre, il te tend un verre de thé. Je serais honoré que vous acceptiez de partager ce thé. Puis il explique ce que signifie sa gêne, son refus. Une photographie capture un homme dans un instant, mais que reste-t-il dans l'image de la vie de cet homme, surtout si on ne connaît rien de lui ? Ne croyez-vous pas, ajoute-t-il, qu'un portrait gagne à ce qu'on connaisse ce qui est caché ? Vous me paraissez sympathique. Cet endroit vous semble amusant, étonnant, peut-être même folklorique. Le modeste libraire sur le pas de sa porte vous a sans doute intrigué. Mais n'y a-t-il pas derrière tout regard une histoire ? Celle d'une vie ? Celle de tout un peuple, parfois ? Ne pensez-vous pas, monsieur le photographe, que vous pourriez écouter mon histoire ? Des reliures en cuir brun, rouge, vert, des couvertures de papier jauni. Le soleil pénètre doucement à travers la petite fenêtre en hauteur, créant un jeu de reflets dansant sur le dos des ouvrages. Tout tient en équilibre, un miracle, un désordre qui aurait du sens. Chaque livre semble avoir sa place au sein d'une logique qui t'échappe encore, comme si un fil invisible les reliait entre eux. Il tire un livre d'une étagère très lentement, il semble qu'il va se désintégrer entre ses mains. Il te le tend sans un mot. Il sait que ce livre-là, c'est celui qu'il te faut, même si toi, tu l'ignores encore. Ce n'est pas une recommandation, c'est une révélation. La condition humaine d'André Malraux, un auteur et un titre dont tu n'as qu'un vague souvenir. Peut-être l'as-tu dans ta bibliothèque, mais l'as-tu vraiment lu ? Si tu es honnête avec toi-même, jamais. Parcourez-le, mieux, lisez-le, dit-il. Et te l'offre, le tout sans insister comme une injonction douce, mais implacable. Le vieux te regarde s'emparer du livre, puis il parle. Celui-là, il a traversé des guerres, des révolutions, des émeutes. Il est resté ici quand tout s'effondrait dehors. Il a vu passer des générations et il a résisté au temps. Il parle d'une autre époque, mais pour qui sait bien le lire, il parle de maintenant, de nos vies, de la vôtre, de la mienne. C'est cela un grand livre. C'est un monde, un refuge et un miroir. Il y a dans sa voix une ironie discrète, une sagesse amusée, une douceur aussi. Vous savez, ici, chaque livre a son histoire et sa place réservée. Vous pouvez choisir, bien sûr, mais les livres, eux, choisissent aussi leurs lecteurs.
الدنيا يسقسوني على لون عيني منين منين أصلي منين ما شافوا واش غرست يديا والشمس تحرق فيا وراج فيا في الطين في راسي حكاية فايدة وفي أرضي كنوز ردة عطيني قدم شنو لي حب
Enfant des deux rives, j'ai le cœur qui tangue. Fils du vent, jamais jettera l'encre. Là où je vais, mes racines, je plante ma bouche et l'écho de toutes les langues. D'ici, de là-bas, je pars, je reviens, le destin d'une vague. Dessiner le large, les couleurs baillent à la soif des siadjiba. Le cœur qui bat, qui parle et qui s'éveille. Au goût du sel de mer et du soleil. Ton nom sans le mien, rouge pareil. Sont le mien, oui, sont rouges pareil. Je suis ce que tu me donnes. L'ignorance ou un morceau de pain. Les mémoires secrètes en nous dorment et résonnent. Nos ancêtres se tiennent par la main.
Nabil et l'auteur, enfin Nabil le personnage et l'auteur, derrière tout regard se trouve une histoire. Et ce roman est une fable qui nous raconte des vérités universelles sur la condition humaine. Alors Rachine Benzine a choisi ce titre en écho à L'homme qui plantait des arbres, qui est une fable de Giono.
Dont on a parlé ici.
Oui, que j'avais présenté il y a 2 ans.
Oui.
Exactement
oui.
2 ans. Voilà.
Oui, oui, un très beau texte. Moi, ça m'avait fait penser aussi aux vieux qui lisaient des romans d'amour.
Ah ben oui. on saute de juste continent en continent, là. Hein.
Juste le titre.
Rien ne nous arrête.
Et donc, cet homme, ce libraire, va raconter sa vie à Julien, le photographe français, bien sûr, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, ouais, exactement. Oui, donc sa vie à travers lui, son histoire et l'histoire aussi de la Palestine depuis 1948. Oui. Il raconte qu'il est né à Haïfa d'un père chrétien et d'une mère musulmane. Son enfance dans les camps, une vie de réfugié, une vie faite évidemment de drames, de souffrances, mais également de rencontres, d'amitiés et aussi d'engagement politique.
Alors c'est surtout une vie, enfin, sous le signe de la littérature. En fait, dans sa librairie, on retrouve des ouvrages de la littérature mondiale. et ces textes ponctuent son récit comme des refuges quand tout s'effondre. D'ailleurs, dans sa librairie, enfin, je ne sais plus, on a choisi que des petits extraits, mais à un moment, il parle aussi bien, je sais pas moi, de Shakespeare, de Malraux, qu'à un moment, il parle de Milady, et j'ai pensé à...
Ah oui.
Voilà.
Présenté en
Donc, il a quand même une très grande ouverture sur la littérature mondiale. Et en fait, tous ces textes ponctuent son récit, comme des refuges quand tout s'effondre. D'ailleurs, des chapitres ont le titre. De titres de livres. Et cette tragédie, elle est racontée à hauteur d'homme. Et le roman déroule la vie de Nabil. Alors, symboliquement choisi en 48, hein, qui coïncide à la Nakba, donc l'exode palestinien, alors que toute la famille doit quitter leur village en une nuit de violence. Et c'est ce que vous allez découvrir dans l'extrait suivant qui a été choisi par Magali.
Je suis née en 1948. Ma mère était musulmane et mon père chrétien. Elle s'appelait Safa Zahalka et lui, Elias Al-Jaber. Il travaillait alors comme journalier à la raffinerie de pétrole britannique de Haïfa. Ma mère m'a mise au monde précisément le 1er janvier 1948. Elle avait 19 ans et mon père 27. Et j'avais déjà un grand frère, Moussa, né 4 ans plus tôt. Mes parents s'étaient mariés en 1943. Ils habitaient chez mes grands-parents paternels à Bilad el-Sheikh, un village à 7 km au sud-est de Haïfa. Mon père avait voulu faire mieux, en tout cas autre chose que mes grands-parents. Faut dire que leur vie, ce n'était pas une vie, comme pour beaucoup d'autres, dans bien des pays du monde. Pour les paysans, l'existence était comme une sentence, une punition de Dieu qui s'étire sans fin. Jour après jour. Il se levait avant l'aube, les os déjà lourds de fatigue, avec cette inquiétude permanente d'être engloutis par leur propre misère. C'était pourtant des hommes et des femmes taillés dans le roc, des silhouettes courbées qui traînaient leur peine sans se plaindre, des corps maigres, brunis et fripés par le climat, tannés par les heures passées à creuser, à planter, à gratter le sol ingrat qui leur donnait si peu et leur prenait tout. Ils sortaient au champ, les yeux encore collés de sommeil, les pieds nus dans la poussière froide du matin, traînant derrière eux leurs outils, aussi usés qu'eux. C'était une lutte incessante contre cette terre aride qui refusait de se laisser faire, qui leur crachait au visage leur pauvreté à eux tous, comme si la terre elle-même les haïssait. Le soleil n'était pas davantage tendre. Il montait vite, une boule de feu qui les écrasait, les frappait de lumière et de chaleur. Ils étaient trempés de sueur dès la première heure, les bras en feu, le dos brisé. Mais ils continuaient inlassablement. Ils serraient les dents. Je me rappelle les mains de mon grand-père, des morceaux de cuir fendus, brisés. Des mains qui n'avaient jamais connu le repos, qui n'avaient jamais senti autre chose que la rudesse des outils, la morsure de la terre. Les hommes de cette époque parlaient peu. Des mots rares, des phrases sèches, échangées entre deux coups de bêche. Les discussions n'étaient que des murmures de misère, des mots simples qui disent tout ce qu'il faut dire, sans rien dire, ou presque. Ils ne se racontaient pas leurs douleurs, leurs dettes, la terre qui ne leur donnait rien, la pluie qui manquait toujours. Les femmes travaillaient comme les hommes, souvent plus encore, parce qu'après les champs, c'est la maison qui les attendait. Ma mère passait le plus clair de son temps à gratter la terre, son gosse accroché à ses pieds. Mon père avait vite compris qu'il n'y avait pas d'avenir pour sa famille dans ce village. Il avait décidé de nous chercher une meilleure vie ailleurs. Il partait à l'aube pour la raffinerie de Haïfa, les mains vides et les yeux déjà cernés. Ma mère le regardait s'éloigner comme un condamné qui se rendait à son bagne. Parce que c'est tout ce qu'il avait trouvé pour faire vivre les siens, pour mettre un peu de pain sur la table. Il devait se présenter chaque matin au contremaître sans assurance qu'on lui propose du travail. La raffinerie, il me l'a raconté parfois, un monstre de métal, une bête qui gronde jour et nuit, crachant sa fumée noire, sa puanteur d'huile et de fer. Il rentrait couvert de cette odeur, imprégné de cet enfer d'acier. Le dos cassé, les mains couleur de charbon, la peau brûlée par le soleil et le pétrole. Il ne se plaignait de rien. Il faisait comme les autres. Il serrait les dents et souffrait en silence. Il continuait comme un automate avec une résignation qui le rongeait de l'intérieur. Ma mère, pendant ce temps, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour le soulager. Elle était si jeune, mais son visage était déjà marqué. Ses yeux ont toujours trahi une fatigue sourde, une tristesse qui ne dit pas son nom. Elle portait en elle toutes les peines. Parfois, le soir, ils s'asseyaient dehors, dans la lumière pâle du crépuscule, sans se parler, juste à regarder la nuit tomber, le nez tendu vers le ciel qui s'embrasait de rouge et d'obscurité. Ils savaient tous les deux que ce silence, ce repos fugitif, c'était leur seule récompense. Elle lui disait des mots tendres pour lui rappeler qu'il s'aimait, malgré cette vie. Elle n'y arrivait pas toujours. L'arrivée d'un second enfant ajoutait à leur peine, parce que dans leur monde, même l'amour était un luxe qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre. Elle se contentait de le regarder, de poser sa main sur la sienne, de se serrer un peu contre lui, comme pour lui dire qu'elle était là, qu'ils étaient là, ensemble, et que c'était tout ce qui comptait. Et puis il rentrait. Elle couchait Moussa, elle éteignait la lampe, et ils s'endormaient en priant pour que le lendemain leur offre plus de réconfort. Ma naissance est d'abord le miracle de ma mère, le miracle de toutes les mères, bien sûr, depuis l'aube de l'humanité, et le sien en particulier. En effet, elle a accouché quelques heures après avoir été grièvement blessée par balle. Dans la nuit du 31 décembre 1947 au 1er janvier 1948, Bilad el-Sheikh a été vidé de ses habitants arabes par des hommes de la Palma, une branche de la Haganah, qui ont attaqué pendant que les gens dormaient. Ils ont frappé aux portes, ils ont crié dans les rues. Mon père me l'a raconté, des voix dures, métalliques qui claquaient dans l'air. Pas de questions, pas de pourquoi, juste des ordres aboyés comme on chasse des chiens errants. Ce n'étaient plus des hommes qu'ils voyaient, c'étaient des silhouettes, des ombres, des cadavres en devenir. Les familles ont ouvert leurs portes, la peur dans les yeux, les mains tremblantes. Mon père maîtrisait les rudiments d'hébreu. Il avait des copains juifs à l'usine. Il essayait de parler, de raisonner, de demander un peu de temps. Les soldats le repoussaient de leurs fusils. Alors tous sont sortis, les uns après les autres, hagards, perdus. Ils ont regroupé les hommes, ils les ont mis en ligne, comme des animaux à l'abattoir. Et puis soudain, les coups de feu. Les femmes ont hurlé en voyant leur mari s'écrouler. Les enfants ne parlaient plus, leurs yeux à jamais marqués par cette vision. Une soixantaine d'habitants a ainsi été massacrée, surtout des hommes, mais aussi quelques femmes et enfants, pour venger des juifs tués par des arabes à la raffinerie de pétrole, paraît-il. Des arabes qui eux-mêmes avaient été victimes de juifs de l'Irgun. Cette terre est une litanie de représailles sur représailles, de haines empilées, de tristesses recouvertes de tristesses. Quand les tirs ont cessé, les soldats ont ordonné aux survivants de quitter le village. Ils ont commencé à brûler des maisons. Partis en fumée, les meubles, les tapis, les outils, les souvenirs même, photos, médailles, pierres, mémoires de la vie, d'êtres aimés. Vieillards, femmes, enfants serrés les uns contre les autres, vidés de tout ce qui faisait l'intimité de leur famille. Mon père a tenté de s'interposer quand ils se sont attaqués à notre maison. Un coup de crosse l'a instantanément cloué au sol, inanimé. Le même soldat de la Palma a tiré dans le dos de ma mère, qui s'était précipité pour relever mon père, à terre, en sang, à moitié morte.
El tiempo va a pasar, no va a retroceder. Pensar en este momento y en ser joven otra vez. Que fue de aquel lugar, los chicos que besé. No quiero que pase el tiempo si voy a querer volver. No puedo hacer nada porque el tiempo va a pasar. Voy a echar de menos el brillo de tu mirada. Qué mala, no se puede controlar. Yo sigo la vida donde me quiera llegar. Cambiará mi piel.
tiene contexto. Él ya te quiere como si estuvieras muerto. Deja propina y nunca lleva suelto. Yo que no contesto a mensajes texto y a las llamadas ni respondería. No es personal, no te rayes. Ella siempre va a haber cosas que nunca se olvidan. Un palo por la espalda, tu boca con la mía. Inshallah, un momento. Quiera.
No puedo hacer nada porque el tiempo va a pasar. Voy a echar de menos el brillo de tu vida. Qué mala, no se puede controlar. Yo sigo la vida donde me quiera llevar.
Tiempo pasa.
On est un peu sans voix parce que ce n'est quand même pas un texte si facile.
C'est pas un texte,
n'est-ce pas? Voilà. Je vais aller un peu plus loin dans la narration parce qu'ils vont de camp en camp, on comprend bien. Hein. Et je vais relire un extrait qui illustre cette double religion qui le suit toute sa vie entre son père et sa mère. Voilà, un tout petit extrait. Toutes ces années durant, j'ai donc poussé dans le camp comme un arbre tordu. Les blessures de mes parents, je ne les ai jamais vraiment perçues, mais comme des racines qui s'entêtent à creuser, à chercher l'eau sous la poussière, je les ai faites miennes. J'étais de ces gamins qui écoutent tout et ne disent rien, pas de ceux qui posent des questions sans fin, non. Ce qui me fascinait, c'était d'écouter les histoires, surtout les grandes histoires que racontaient les sœurs au catéchisme. J'ai grandi entre deux religions. Il y avait l'église au bord du camp, une cabane plantée là par des missionnaires qui avaient fait le voyage. Ils étaient venus avec leur Bible, leur prière, leur foi tout entière dans un sac à dos. Et puis la mosquée que fréquentait ma mère un peu plus loin. Une masure de fortune avec des murs en tôle et un toit de toile. Là-bas, c'est un vieil imam usé mais aux yeux pétillants qui m'apprenait des sourates et les histoires des prophètes. Il avait bien compris que c'était à peu près la seule chose qui m'intéressait vraiment. Notre imam avait la voix de son âge, un peu éraillée, mais il savait en tirer le meilleur quand il psalmodiait le Coran avec douceur et pénétration. Bien qu'il soit mort depuis longtemps, mes oreilles l'entendent encore aujourd'hui, par je ne sais quel miracle de la nature, et son chant me berce dans les moments difficiles. Le gamin que j'étais s'est imprégné de la bienveillance de cet imam. Pour autant, je suis resté chrétien avec la sensation, sans le formuler ainsi à l'époque, d'être un enfant entre deux mondes. Un passeur, peut-être. Un passeur d'histoires, de prières, de mots qui se rejoignent, tels des rivières. Je comprenais les sourates comme je comprenais les paraboles. Je connaissais les noms des prophètes et des saints comme je connaissais ceux des histoires que me lisait mon frère, D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Je savais réciter des versets du Coran comme des passages des évangiles. Parfois, quand j'étais seule, je mélangeais tout pour voir ce que ça ferait.
pour voir si Dieu m'en voudrait, pour voir si le ciel s'assombrirait. Je chuchotais un psaume en y entremêlant une sourate. Je parlais à Dieu et à Allah, à Jésus et à Mohamed, dans la même prière, et j'invoquais Milady. Comme s'ils pouvaient tous se comprendre au-delà des mots, des langues, des siècles. Eux se moquaient de nos frontières, de nos limites. J'interrogeais l'imam, j'interrogeais la sœur, au-delà des apparences, au-delà des silences, des circonstances, des rituels, des versets, au-delà des croyances, au-delà des certitudes. Je m'étais d'une certaine façon forgé ma propre foi, mêlant les récits des anges, du Coran et des apôtres du Nouveau Testament. Une foi qui m'inspirait la tolérance. Pour les autres, j'étais comme un djinn égaré dans un univers qui n'aurait pas dû être le sien. Nous étions en 1966.
Oui, intéressant tout ça. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, ça illustre bien ce que Nabil disait au photographe, que derrière tout regard se trouve une histoire, et celle de cet homme et de sa famille, elle est absolument tragique, comme celle de son pays d'ailleurs.
Et oui, l'auteur en fait pose cette question, comment remettre de l'humanité dans cette histoire déshumanisée? Comment ne pas céder à la nuit? Qu'est-ce que peut la littérature quand tout s'effondre? Seul un homme qui a tout perdu peut essayer de répondre à ces questions. Et c'est ce qu'essaie de faire Nabil. Les textes littéraires lus par Nabil semblent à chaque fois écrits pour lui. Une universalisation des mots. Toute sa narration dans le roman est ponctuée par des références littéraires. Je cite « Les livres qu'il tient entre ses mains ne sont pas que des objets, ils sont les fragments d'une vie, les éclats d'une mémoire, les cicatrices d'un peuple ». C'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture. Alors, j'ai choisi quelques extraits relevés un peu parsemés dans le roman pour illustrer ce propos. Alors, dans la première lecture qu'on a faite, il était question de la condition humaine d'André Malraux. Et là, nous allons croiser Victor Hugo, Primo Levi, et Gabriel Garcia Marquez pour l'aider à supporter le vide qui s'est fait autour de lui, puisqu'il y a beaucoup de morts dans sa famille. La légende des siècles. Il ouvre un livre de Victor Hugo et lit. C'est un funeste siècle et c'est un dur pays. Dans le camp d'Akabat Jabr, ma famille a été confrontée au désespoir. L'endroit concentré des réfugiés palestiniens provenant de centaines de villages du nord de Haïfa, mais aussi de Gaza et de Hébron. Des dizaines de milliers d'êtres échoués, victimes d'une histoire écrite à marche forcée. J'ai fait mes premiers pas dans ce camp. Il était situé dans la vallée du Jourdain, entouré de collines arides et d'un paysage désertique. La terre y était rocailleuse et sèche, parsemée de broussailles et de rares touffes d'herbes qui luttaient pour survivre dans cet environnement hostile. À notre arrivée en plein hiver, les familles ne disposaient que de tentes. Les nuits étaient froides et le vent soufflait fort. Le sable et la poussière s'infiltraient dans chaque recoin. En été, le contraste était saisissant, la chaleur écrasait tout. À l'horizon, on pouvait voir les montagnes de Cisjordanie. Leurs pentes dénudées offraient de l'espoir. La vallée était dépourvue de grandes étendues d'eau. Quelques torrents intermittents, dépendant des précipitations irrégulières, fournissaient un peu de répit en période de pluie. Ils formaient des creux dans la terre où l'eau stagnait brièvement avant de disparaître, laissant des traces de boue séchée. L'endroit était isolé, avec peu de routes ou d'accès direct aux villes alentour. Nous étions coupés de notre monde d'origine et du monde extérieur. À l'intérieur du camp, on manquait de tout.
Si c'est un homme, Jabalia. Nabil se lève. Il saisit un autre livre sur une étagère, tourne quelques pages et s'arrête soudain. Je reconnais la couverture de « Si c'est un homme ». Il lit. On a parfois l'impression qu'il émane de l'histoire et de la vie une loi féroce que l'on pourrait énoncer ainsi. Il sera donné à celui qui possède, il sera pris à celui qui n'a rien. Il te regarde et te dit « Primo Levi m'a probablement sauvé la vie. Je ne peux toujours pas poser de mots sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je me réveille encore chaque matin, ou presque, en cherchant de la main mon frère. Avant que mes yeux ne me jettent l'évidence à la figure, je prie Dieu pour le retrouver. Je le supplie de n'être la victime que d'un horrible cauchemar. Et puis mes paupières s'ouvrent sur ma solitude. Ce n'est pas une toile de tente que j'ai au-dessus de ma tête, mais du plâtre écaillé. Tout cela a donc été. Tout cela a donc disparu. J'ai pardonné. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps. Mais aucun texte n'a effacé ma mémoire. Aucun texte ne m'a fait oublier ce qui était, qui n'est plus et ne sera plus. Nabil, sais-tu ?
Cent ans de solitude. Israël, prison. Il s'assied en tailleur et reprend son récit. La plupart des livres que je lis et relis, je les ai découverts en prison. Chacun raconte au moins une année d'enfermement. Et je les relis autant pour me souvenir que pour les comprendre. Un grand livre, c'est un livre sans fond. Un livre d'énigmes irrésolues. Derrière l'histoire, il y a un point aveugle. Et on se perd à vouloir l'éclaircir alors qu'il faut l'accueillir pour ce qu'il est. La bénédiction d'un mystère. Vous comprenez ? Je suis sûre que oui. Les livres qu'on aime sont des livres qu'on n'a pas compris ou qu'on a cru comprendre, mais les relisant, on découvre un autre sens, une autre facette, une part inexplorée. J'étais en prison quand mes parents sont morts. Invisibles souvent, vivants ou morts, tes parents t'accompagnent à chaque instant de ton existence sans que tu t'en rendes compte, comme une évidence. Comme un regret que tu porteras toute ta vie en toi. On ne guérit pas de leur absence. On en meurt chaque jour un peu plus. Les miens étaient et seront toujours une source dans laquelle je puise la force de me relever. Mon père était le silence. Ma mère était le bruit. Et moi, je les regardais, j'écoutais, je retenais. Il y avait en eux cette sorte de mélancolie, plus probablement la saudade de Fernando Pessoa. Cette leçon des ténèbres qu'il ne montrait qu'à demi-mot, car le poids des années, des pertes et des sacrifices n'avait jamais complètement quitté leur cœur.
Left blue.
Merci pour la musique.
Ah.
C'est beau.
Ah, ça impressionne. Hein. Ça impressionne. Oui, oui, il n'y a pas de musique anglo-saxonne aujourd'hui.
Ça fait du bien.
Non,
hein,
enfin, ça repose un peu.
Ça repose.
C'est
ça.
Non, c'est bien aussi. Il y a des choses très bien.
Bien sûr.
Oui, donc pour en revenir au livre, hein, c'est donc la littérature comme refuge et résistance. En fait, les livres comme des symboles de mémoire et d'humanité face à la guerre et à la destruction.
Ouais.
Et en lisant au milieu des ruines, cet homme devient en fait un résistant qui s'accroche à ce qui est humain. Et l'auteur nous dit que la littérature ne change pas toujours le monde extérieur, mais qu'elle préserve notre esprit, notre liberté et notre humanité, non ?
Oui, alors c'est vrai qu'on par moment peut se dire qu'il est un peu naïf dans sa démarche, mais d'abord c'est un peu une fable, hein, voilà.
Oui.
Mais il montre bien quand même que la lecture n'est pas un acte passif, qu'elle transforme, qu'elle invite à repenser notre regard. Et comme on le disait au début, derrière tout regard, il y a une histoire, celle d'une vie, celle de tout un peuple parfois. Et ce lien entre montrer la vivacité de la littérature, c'est-à-dire qu'elle colle tellement qu'un roman très ancien, même il parlait de Sourate ou de Parabole, tout d'un coup ça te touche comme si on l'avait écrit pour toi.
Ah, oui.
Et exactement. C'est vrai que c'est quand même très intéressant cette démarche.
Et puis bon, on l'a vu, le roman est bouleversant, hein, et il nous montre aussi que quand tout s'effondre, enfin les livres, parce qu'il y a donc une petite note d'espoir, hein, dans toute cette noirceur, les livres peuvent être une lumière qui nous permet de ne pas perdre notre humanité. Et dans l'extrait que tu as lu tout à l'heure, tu nous as dit, un grand livre, c'est un monde, un refuge et un miroir.
Oui, alors pour l'auteur, l'idée d'écrire ce livre, cette fable, en fait, elle est née au lendemain du 7 octobre 2023. Donc face à cette barbarie, il s'est questionné. Donc, il dit, sa voix nous guide à travers les labyrinthes de l'histoire et de l'intime. C'est encore une phrase que j'ai piquée de la quatrième de couverture. Voilà.
Ouais. Eh bien, merci toutes les deux de nous avoir fait découvrir ce roman. Vous nous redonnez les références, peut-être ?
Oui, alors « L'homme qui lisait des livres » de Rachid Benzine, B-E-N-Z-I-N-E, édité chez Julliard en 2025.
Eh bien, merci beaucoup. Je vous dis donc au revoir. Au revoir Magali, au revoir Catherine.
Au revoir.
Et à bientôt nos chers auditeurs.
À bientôt.
À la semaine prochaine.
Voilà.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.